Do. Dans cette édition, on vous parle de la tour des juges. Encore une fois, on s'intéresse aussi à l'énergie solaire, aux coraux et à de la voile. Et ce journal est présenté par Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Harry, bonjour à toutes et à tous.
Le dossier de la tour des juges est toujours à la une de l'actualité.
Et oui, et pas seulement au Fénois. Le dernier communiqué de l'ISA dont on vous parlait hier a fait du bruit dans le monde entier. La Fédération internationale de surf s'y désolidarisait du pays et du comité qui ont décidé de poursuivre le chantier d'installation de la tour en aluminium dans le lagon. L'ISA regrette au passage que ses propositions alternatives basées sur des drones, des téléobjectifs et des juges à distance pas été retenue parce qu'elle n'était ni concrète ni réaliste, a réagi hier Moetei Brotherson au micro de TNTV. Le président du pays, actuellement aux Marquises pour le festival, a regretté que la fédération se réveille aussi tard alors qu'elle était associée depuis le début à la conception de la tour. Des propos corroborés la nuit dernière par Tony Estanguet. Pour le président du comité Paris 2024, la fédération internationale a changé subitement de position. Quant à ses propositions, elles ne sont pas convaincantes. Écoutez.
Et oui, car une bonne partie du secteur des énergies renouvelables demandait le retrait de cet appel.
Excusez-moi, c'est une petite erreur. On parle d'énergie avec le pays qui freine sur les fermes solaires.
Quittez pas des grandes centrales photovoltaïques, il y en aura à Tahiti. 4 projets portés par les groupes Moox, Sioux et Engie sont en construction à la Presqu'île et à Mataya et ils devraient entrer en opération dans le courant de l'année prochaine. Mais le pays avait promis une deuxième vague de projets et même lancé un appel à candidature en octobre. Eh bien cet appel vient d'être retiré. Pour les professionnels, ça n'est pas vraiment une surprise et c'est même un soulagement, Charlie René.
Et oui, car une bonne partie du secteur des énergies renouvelables demandait le retrait de cet appel à candidature en pointant qu'il avait conservé le même cahier des charges que celui de 2021. Un cahier des charges trop contraignant pour les promoteurs qui oblige notamment à équiper les centrales de lourdes batteries et à garantir à l'avance sa production sous peine de pénalité. Les professionnels, eux, veulent de la souplesse et proposent, comme la TEP d'ailleurs, de placer des batteries directement sur le réseau plutôt que dans les centrales. D'après le syndicat Synergie, cela permettrait d'optimiser la production solaire et surtout de faire baisser drastiquement le coût de l'électricité produite, Valdemar.
Et parmi ces arguments qui ont été visiblement entendus par le pays, il y en a un autre qui pèse, c'est le foncier.
Oui, il en faut du foncier pour installer des milliers de panneaux solaires, à moins qu'on les mette sur les toits. Les grands consommateurs comme les supermarchés ou l'industrie ont déjà sauté le pas depuis longtemps, mais les centaines de docks et de hangars de stockage ne sont pas équipés. Les professionnels veulent pouvoir y construire leurs centrales et pour ça, il ne faut pas s'embarrasser avec de lourdes batteries. Synergie propose aussi au passage de revoir le système de tarification du raccordement haute tension qui, d'après le syndicat, décourage de nombreux propriétaires. Bref, il y a encore à faire pour libérer l'énergie solaire.
Voilà, et à noter tout de même que pour éviter que ces fermes photovoltaïque ne consomme trop de foncier, le gouvernement avait encouragé les projets mixtes solaires et agriculture. C'est le cas de celui du groupe Sioux à Tarawa où les panneaux serviront d'ombrage pour les vaches. C'est le cas aussi pour le groupe Moox à Mataya où on fera du maraîchage bio sous la centrale. Ça n'existe pas qu'à Tahiti. Du côté des Raromatei, plusieurs communes travaillent avec la société Akuo pour lancer les serres photovoltaïques.
Justice, Teura Iriti et Naea Bennett ont été auditionnés par la gendarmerie.
La Tavana Darue et l'ancien ministre des Sports ont passé plusieurs heures à la brigade de recherche hier, d'après nos confrères de Polynésie la Première. Une enquête pour favoritisme et prise illégale d'intérêt avait été ouverte après que l'ancien maire Philippe Schill ait signalé des contrats passés entre la commune et l'ancien footballeur, qui est aussi le fils de l'ancienne première adjointe de Teura Iriti, Yolande Bennett, qui elle a déjà été condamnée à une peine d'inéligibilité suite à l'affaire des procurations.
Côté économique, l'indicateur de climat des affaires est en baisse.
Moins 4,1 points au troisième trimestre, avant même les débats sur la réforme fiscale et le budget. L'ICA qui reste toutefois largement au-dessus de sa moyenne longue, mais d'après l'IEOM, les prévisions d'investissement sont en retrait après le boom de la sortie de Covid. D'autres indicateurs sont au vert, l'inflation annuelle qui passe sous la barre des 2%, le nombre d'immatriculations qui augmente de 26% en un an, la perle et le tourisme qui atteignent des chiffres records. L'IEOM note en revanche que l'investissement des ménages est contraint par les taux d'intérêt très élevés.
On s'intéresse à ce qui se passe dans l'eau du côté de Punaouia.
Oui, avec Tamari, pointe des pêcheurs, qui fait un point d'étape sur son projet Toa Nuuroa. Ce programme, porté à la base par 3 associations, vise, souvenez-vous, à évaluer l'impact de la restauration des récifs et à lutter contre la prolifération de l'algue Tubinaria ornata. Ces objectifs portés aujourd'hui seulement par l'association Tamari, pointe des pêcheurs. Pour les atteindre, l'association est passée par une première phase de test qui a révélé quelques faiblesses dans le protocole initial, mais pas de quoi les arrêter, écoutez.
On a écrit le protocole final pour avoir vraiment des données fiables. On a arraché aujourd'hui à peu près 500 kilos d'algues et à l'issue de cette phase pilote, on a aussi eu les résultats d'un stage universitaire qui nous a prouvé que l'arrachage de cette algue était bénéfique et faisait revenir les poissons herbivores et aussi améliorer la santé corallienne. Avec toutes ces informations-là, aujourd'hui, on continue la phase d'action scientifique avec un protocole rigoureux et des données qui seront exploitables scientifiquement.
Jessica Tran, biologiste au micro de Vaïtière et Pereire. Le projet se poursuit donc par la phase scientifique et l'application des méthodes définies par le protocole. L'association est en plein dedans d'ailleurs et les biologistes marins répliquent donc ce protocole scrupuleusement sur les trois zones concernées par le projet. En l'occurrence, la Pointe des Pêcheurs, la Source, mais aussi dans le lagon de Saint-Étienne. Depuis une semaine, ils récoltent des boutures de corail et ce matin, malgré la pluie, l'équipe s'est de nouveau jetée à l'eau.
Au total, on a à peu près 2400 microfragments à réaliser qu'on va disposer en nurserie. Du coup, là, on était sur la fin de la manipulation qui aura duré au total une semaine. On a récupéré des fragments coralliens qu'on va traiter. On va aussi étudier leur génétique et leur physiologie pour pouvoir suivre comment évolue la physiologie et la santé du corail après un temps de nurserie. Donc, il y a plusieurs traitements qui vont être faits avant d'être au final microfragmentés et mettre en nurserie pour pouvoir être transplantés.
Et si tout se passe bien, la transplantation est prévue en mars. Au total, Tamari Pointe des Pêcheurs envisage de replanter 75 mètres de coraux sur chaque site.
Et du sport pour terminer, on vous parle d'une Coupe du Monde.
Une Coupe du Monde de voile qui s'est déroulée aux îles Canaries entre la fin novembre et début décembre avec cette belle 18e place finale pour l'équipe tahitienne. Cette nouvelle compétition s'est déroulée avec des équipages de 9 personnes et les Tahitiens ont donc réalisé ce beau parcours qui n'était pas forcément attendu au milieu d'une quarantaine d'équipes. Écoutez le capitaine Teva Plichard.
Une qualification vraiment surprise en juillet 2022. On est allé sur cette phase finale en novembre 2023 avec beaucoup de passion mais beaucoup de réserve aussi. Et puis au fur et à mesure que les régates se passaient, on accumulait les victoires, les victoires, les victoires, ce qui nous a permis d'arriver jusqu'en 8e de finale et on échoue l'accession en quart de finale. Donc une petite déception sur la fin forcément, mais on monte quand même le pays de la 72e place au 18e rang mondial. Donc c'est énormément de plaisir, un petit peu de fierté et puis on a vraiment vraiment hâte de représenter l'équipe sur l'édition de 2026.
Et la prochaine édition, elle pourrait avoir lieu à Tahiti. Teva Plichard travaille en tout cas en ce sens, mais cela demande de l'organisation, même s'il y a du temps, puisque l'épreuve est prévue donc pour 2026.
En discussion plus qu'avancée, parce qu'en fait, il y avait une liste de pays qui étaient intéressés, et on est dans le top 3 là maintenant. Il ne reste plus que 3 pays contre nous. Soit les Canaries qui réorganiseraient, la Malaisie qui est intéressée aussi. Je vais laisser passer Noël, et ensuite je vais aller faire une grosse réunion avec le COPF et avec la présidence aussi. Puis le ministère des Sports, parce que là, ça ne va pas être un projet fédéral, ça va être un projet de pays. C'est accueillir 600 athlètes pendant 3 semaines, c'est beaucoup de choses. Surtout que l'organisation nous propose une chose derrière, c'est de laisser les bateaux sur place à Tahiti pour 2027 et proposer intégrer ça aux Jeux du Pacifique en 2027 en démonstration.
Voilà, et donc si le pays est d'accord, réponse attendue en février pour une organisation tahitienne de cette Coupe du Monde de voile pour 2026. Teva Plichard a déjà 2 sites hein, potentiels en tête, la baie de Matavei et le lagon de Rayatea et Taha. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Retour de l'actualité à 16h avec le flash de la rédaction.